Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sangor. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner aux côtés de Zoé Heiner. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Zoé pour qu'elle puisse vous présenter notre radio.
Merci bien, Darren Hort. Alors, je vous informe, chères auditrices et auditeurs, que nous sommes sur la radio Sangor, qui est un projet lycéen lancé par la classe Littérature et Société. Il a pour but de faire la promotion du journal papier, autre projet du lycée qui sortira prochainement. Dans ce laps de temps, nos chroniqueurs se succéderont et nous parlerons de leurs articles et nous y débattrons tous ensemble.
Nous parlerons ensemble d'actualités qui touchent directement les jeunes lycéens que nous sommes, mais pas seulement. Nous parlerons également musique, tendance et actualité oblige de politique.
Commençons alors maintenant avec une petite touche musicale en introduisant la première chronique de Chloé et Elodie qui vont nous partager les chansons qui les ont marquées et qui les transcendent.
Je m'appelle Elodie. L'une des musiques qui m'a le plus marqué, c'est Light de Archive. C'est mon père qui me l'a fait découvrir et je l'ai tout de suite beaucoup aimé et je l'écoute encore souvent. Elle m'aide à me concentrer et à réfléchir et surtout elle m'apaise. Je me sens bien quand je l'écoute, mais je ne sais pas vraiment comment expliquer ce que je ressens. Alors peut-être que Chloé l'expliquera mieux que moi.
En fait, il y a des musiques qui nous transportent, elles nous emmènent ailleurs. On pourrait presque dire qu'on les vit plus qu'on ne les écoute, mais ça reste compliqué à décrire. Les émotions, c'est jamais simple à expliquer. Je pense qu'il faut vraiment avoir une chanson qui nous fait ressentir ça pour comprendre, et pour moi, c'est Born in Winter de Gojira. C'est une chanson qui m'a marquée pour deux raisons. D'abord parce que c'est une chanson que je trouve très puissante. Il y a une vraie montée au niveau du refrain qui me donne des frissons à chaque fois, mais aussi par son ambiance. La musique arrive à créer une vraie atmosphère qui lui est propre et je pense que c'est ça qui l'a fait se démarquer des autres.
Merci bien. Alors Chloé et Moine, j'ai cru comprendre que vos chansons étaient anglaises. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les significations de ces chansons, le thème de ces chansons s'il vous plaît?
Moi, ma chanson, ça parle de douleur et de mal-être, mais c'est pas vraiment pour les paroles que je l'écoute, c'est surtout pour l'instrumental.
En fait, les paroles t'expliquent que c'est dans le moment le plus dur que tu trouves la force de continuer, en fait.
Passons à présent à la chronique politique. Vous n'êtes pas sans savoir que dimanche dernier, le 23 avril, le premier tour des scrutins des élections présidentielles a eu lieu sous haute surveillance sous la menace terroriste. C'est une première dans l'histoire de la Ve République.
En effet, les Français ont eu le choix entre 11 candidats officiels. Seuls deux d'entre eux ont été retenus pour le second tour. Emmanuel Macron du mouvement politique En Marche avec 24% et Marine Le Pen du Front National avec 21,3%. Nous vous proposons de revenir sur les moments qui ont marqué cette campagne présidentielle historique.
Alors le 6 avril 2016, Macron En Marche, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, crée un mouvement politique, donc En Marche. Il laisse planer le doute de sa candidature pendant quelques mois avant de l'officialiser mi-novembre. Il est l'un des premiers à avoir déclaré sa candidature.
27 novembre 2016, primaire de la droite, Fillon triomphe. Première surprise de cette campagne présidentielle, l'ancien Premier ministre domine largement le second tour de la primaire de la droite avec plus de 66% des voix. Présenté comme le troisième homme derrière les favoris Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, François Fillon devient le candidat des Républicains et l'un des favoris à la course à l'Élysée.
1er décembre 2016, Hollande renonce. Après 2 mois de suspense, le chef de l'État annonce qu'il ne briguera pas un second mandat, une première dans l'histoire de la Ve République. Il ouvre une période d'incertitude à gauche, mais alors son premier ministre Manuel Valls est pressenti pour prendre de la relève.
24 janvier 2017, le Canard enchaîné accuse Fillon. Entre les deux tours de la primaire de la gauche, le journal satirique révèle que l'épouse de François Fillon, Pénélope, a été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire. Le candidat de la droite est contraint de s'expliquer. Une enquête judiciaire est alors ouverte sur des soupçons d'emploi fictif. Sa femme aurait touché 900 000 euros.
29 janvier 2017, primaire de la gauche, Hamon écarte Valls. La primaire de la gauche n'échappe pas à la victoire d'un outsider. Avec un programme résolument universel, Benoît Hamon surpasse l'ex-premier ministre Manuel Valls avec plus de 58% des voix. La victoire de l'ancien frondeur est une défaite pour la ligne sociale démocrate défendue par François Hollande.
22 février 2017, François Bayrou rejoint En Marche. Le candidat d'En Marche recevra au fil des semaines d'autres soutiens inattendus, parmi eux les anciens candidats à la primaire de la gauche, François de Rugy et Manuel Valls, ainsi que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
24 février 2017, Le Pen refuse d'être entendu par la police. L'enquête sur les assistants parlementaires du Front National au Parlement européen s'accélère. La candidate du parti d'extrême droite refuse d'être entendue par la police dans le cadre d'une audition libre. Le 14 avril, la justice française demande la levée de l'immunité de Marine Le Pen au Parlement européen.
26 février 2017, Mélenchon et Hamon se disent non. Après une rencontre tenue secrète, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une candidature commune. Peu à peu, le candidat de la France insoumise monte dans les sondages et dépasse les socialistes avant le premier tour.
1er mars 2017, Penelope Gates, Fillon s'accroche. François Fillon annonce qu'il est convoqué devant le juge en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse et de ses enfants. Il inclut de se retirer dans la course à l'Élysée. Les défections se multiplient dans ce camp. Le 6 mars, Alain Juppé confirme qu'il ne sera pas candidat. Le 14 mars, Fillon est mis en examen pour un détournement de fonds publics. Le 4 avril 2017, les 11 candidats sont réunis et débattent sur un plateau de télévision. Le leader du nouveau parti anticapitaliste s'en prend à Fillon et François Fillon et Marine Le Pen, tous deux affaiblis par des affaires judiciaires.
20 avril 2017, fusillade sur les Champs-Élysées. Alors que les candidats se relayaient jeudi dans l'émission politique de France 2 pour présenter leur programme, une fusillade éclate sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Un policier est tué et l'attentat est revendiqué par l'État islamique.
Second tour. Comme nous l'avons dit précédemment, les candidats d'En Marche et la candidate du Front National arrivent en tête des suffrages du premier tour. L'un d'eux sera élu le 7 mai.
Derrière la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, les résultats du premier tour font apparaître une situation politique inédite, du jamais vu dans une présidentielle. Des scores historiquement bas pour les deux grands partis de gouvernement français. Pour la première fois, le Parti Socialiste et les Républicains seront absents du second tour. Parviendront-ils à se reconstruire après cet échec historique ou imploseront-ils ? Le Front National bat des records, le FN obtient son plus fort score en pourcentage à une présidentielle, 21,3% des voix, avec son record de voix, 7,7 millions de bulletins.
En effet, voici l'agenda de l'entre-deux-tours. 1er mai, dernier jour pour faire sa procuration. 3 mai, débat télévisé entre les deux candidats à 21h. Fin de la campagne officielle à minuit. La publication des sondages est interdite. Le 7 mai aura lieu le second tour. Parlons maintenant de la nouvelle mode des insectes. Une mode culinaire avec Maureen, Léo et Abdou qui nous parleront des insectes comestibles.
C'est une rubrique sur les insectes à manger. Ouais. Et vous avez sûrement déjà entendu parler des insectes comestibles. Alors, ça peut être ragoûtant de première vue, les insectes, parce qu'on s'imagine tout de suite l'insecte dans le jardin, dans la terre. Forcément, on ne peut pas les manger, eux. Hein. Mais pourtant, certaines marques font des insectes comestibles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Et en quoi c'est bien pour l'environnement. Donc déjà, ça fait très longtemps que les humains mangent des insectes. Depuis l'Antiquité, les humains en mangent. Mais récemment, donc depuis le début du XXIe siècle, les insectes sont devenus, ils sont devenus un phénomène international. plusieurs magasins ouvrent dans les grandes villes françaises, et plusieurs scientifiques, même beaucoup de scientifiques, parlent de la nourriture du futur, car elle apporte plein de choses à l'être humain.
Comme des protéines, c'est bien ça ?
Exactement, parce que c'est vrai que l'insecte apporte plus de protéines par gramme que la viande.
Et donc, pensez-vous que les insectes pourraient remplacer les viandes ou autres produits animaux ?
Justement, c'est la nourriture principale pour la solution contre la faim dans le monde, ou même pour remplacer les animaux d'élevage. Il faut savoir aussi que les animaux polluent énormément la couche d'ozone, alors que les insectes, pas du tout.
Souvent, on se pose la question à quel goût ont les insectes ? Parce qu'on sait que manger des insectes, ça tente pas tout le monde. Et pourtant, sous certaines formes, ça peut avoir l'air appétissant, parce que les recettes se sont diversifiées. Il y a des pâtes, des steaks, des biscuits, des hamburgers, des sucettes, des pizzas et plein de milliers d'autres plats revisités qui contiennent des insectes, et parfois ça se voit même pas. On se demande tous quel goût ça a, et nous on vous dira que ça dépend de l'assaisonnement, parce qu'il y en a pour toutes les saveurs. À chaque fois on peut rajouter des goûts, mais après il faut pas aller chasser les araignées du grenier en pensant pouvoir les consommer. Il faut aller les acheter dans un magasin ou les commander sur internet, et il y a aussi de plus en plus de restaurants qui ne servent que ça.
Donc, vous venez nous voir aujourd'hui avec des petites boîtes
oui,
qui contiennent...
Des molitors et des grillons.
Donc, goût oignon pour les grillons, c'est ça ?
Goût oignon fumé barbecue, oui, pour les grillons.
Et pourquoi les avoir amenés ici ?
Justement, pour les goûter, pour savoir votre
D'accord.
avis sur le goût.
En avez-vous déjà mangé ?
Oui, nous
oui.
avons.
Et comment est-ce que vous trouvez ça ?
C'est...
Du carton.
c'est assez bon. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mmh. On discute pas des goûts et des couleurs, car c'est très subjectif. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Les moliteurs sont très bons. Les grillons, l'odeur est un peu forte,
oui,
mais
bah,
le, goût,
oui.
Le goût est assez bon.
Uh-huh. Mais la texture ne me donne pas du tout envie, est-ce que c'est
la texture, ça ressemble vraiment à des chips. Hein. C'est,
des chips.
Des petites, oui, en effet. Des chips, non,
chips,
plutôt.
Enfin,
je ne goûterai pas, je vous dis
oui.
tout de suite. Darren, peux-tu nous décrire ce que tu vois devant toi ?
Je vois un insecte.
Je vais le prendre.
C'est quoi ?
Est-ce que ça te donne envie
déjà ?
Visuellement, non, ça donne pas très envie
c'est
quand même,
grillons,
mais...
On va en prendre.
Vas-tu tester ?
Ouh là là.
Ouh là.
Suspense.
Léo aussi va nous tester ses grillons.
Je veux bien le... Non, non, goûter.
Est-ce que c'est... Alors,
si on mange des insectes, il faut en effet avoir des chewing-gums à côté. Parce que...
Donc ça a des impacts sur la vie.
Pas top.
Moi, je trouve que ça a vraiment le goût de chips.
Et vous le conseilleriez pour quel moment du repas ? Plutôt pour l'entrée ?
Plus l'apéro.
L'apéro, oui. Mm-hmm. D'accord, mais on peut
un
manger
petit apéro. Oui, ça peut se faire n'importe
Ça dépend de la forme aussi.
Ouais,
ça dépend
de la
forme,
exactement.
Non, en effet, oui, apéro.
Ça a vraiment un goût de chips.
Sur certains sites, ils vendent des cookies à base d'insectes.
C'est vrai que ça fait penser.
Donc on peut le manger à n'importe quel moment du repas.
D'accord.
En effet.
D'ailleurs, pour vous informer, rien qu'en 1990, on relevait déjà plus de 1400 environ espèces mangeables d'insectes. Aujourd'hui, il y en a 2000 et ça continue d'augmenter. En France, il n'y a pas beaucoup de producteurs d'insectes. On connaît Micronutris, qui d'ailleurs, vous pouvez aller voir son site internet, nous propose plein de plats diversifiés, comme Maureen l'a dit tout à l'heure. Et voilà.
Ça, c'est très développé pour l'instant, ou c'est encore un projet très...
C'est très peu développé. C'est quelque chose qui, en France, en ragoûte beaucoup.
Mais c'est banalisé dans les pays asiatiques.
Premier exemple.
Non, mais je tiens à dire que j'en ai déjà goûté dans ma vie.
Et ça dépend des pays, parce qu'on avait vu une étude sur la Thaïlande, où là-bas, en Thaïlande, 95% des gens qui mangent des insectes en mangent pour le goût. Je trouve ça excellent.
Donc c'est une question de culture.
Mais vous l'avez dit tout à l'heure que c'était que ça venait d'Asie.
Oui, Asie.
Ouais, pour la
Chine, c'est très connu là-bas. Là-bas, c'est quotidien d'en manger. Ici, c'est exotique d'en manger.
Ou dégoûtant.
Ça dépend des gens.
Merci Darren et Léo d'avoir goûté ces insectes et nous avoir donné votre avis, et merci à vous tous pour cette chronique. Donc cette nouvelle mode des insectes comestibles a peut-être été testée par plusieurs stars, nous ne savons pas, dont Kim Kardashian peut-être. Nous allons parler de sa garde-robe plus tôt.
Accueillons Jamila et Anissa.
«
Ouais, Annie, ça va?
Ouais, ça va. Et toi, Jadja, tu fais quoi?
Ouais, ça va, je suis devant mon armoire. Je sais pas comment m'habiller demain, si seulement j'avais le dressing de Kim Kardashian.
Ouais, j'avoue, si seulement on l'avait, on n'en serait même pas là. T'as rien de prévu ce soir?
Non, mais vu que demain, je sais pas comment m'habiller, alors soit ça sera trop compliqué, tu vois.
Ouais, j'avoue, bah si tu veux, j'ai 2-3 petits conseils pour toi.
Ouais, vas-y, je t'écoute.
Bah, premièrement, tu mets le top bleu qu'on
oui,
avait acheté ensemble.
Et quoi comme bas?
Bah, ouais, je laisse-moi finir. Deuxièmement, tu mets la jupe que t'avais mis à mon anniversaire.
Et quoi comme chaussures?
Bah, avec des ballerines, hein. Je te jure, ce sera magnifique.
Ah, elle a dit quoi, là? Écoute-moi, Anissa. T'as compris, Anissa, faut pas déconner avec les ballerines, là.
Ouais, bah, mets des baskets, alors.
Ok, et ce soir, c'est quoi? Je me prends même pas la tête. Je mets une robe puis des Stan Smith si on est bon. Et toi?
T'inquiète pas pour moi.
Vas-y, rendez-vous en bas chez toi dans 10 minutes. Bisous.
Bisous.
Merci à vous pour ce formidable sketch. J'ai bien aimé.
Dans ce sketch, vous dites que vous aimeriez avoir le dressing de Kim Kardashian, mais pourquoi? Nous, c'est pas son style qui nous intresse, c'est plutôt le choix.
C'est-à-dire
le nombre de vêtements,
oui,
c'est
voilà ça.
D'accord.
La quantité.
Et vous aimez Kim Kardashian?
Vous appréciez.
Ouais, vous appréciez.
Bah, plutôt son dressing.
D'accord.
La taille du dressing.
Mais pourquoi vous dites la quantité? Parce que vous n'aimez pas la manière dont elle s'habille?
Parce que.
Bah, non, elle est presque pas habillée, moi.
Non, mais.
Je vais dire ça, mais c'est pas méchant, mais. Voilà.
Passons à un sujet qui nous concerne plus, celui de l'ennui à l'école.
En tant que lycéen, évidemment.
Invitons autour de la table nos chers chroniqueurs, Salah, Mike et Julie.
Bonjour. En effet, de plus en plus d'élèves ne trouvent aucun intérêt pour l'école. Pour d'autres, c'est juste un calvaire insurmontable. Je viens en tant que porte-parole pour tous ceux qui se lèvent chaque matin et se demandent à quel point la journée va être longue. Et on vient se demander d'où cet ennui vient-il. On peut se dire que cet ennui vient des professeurs. Car si un professeur arrive à nous intéresser, aucun de nos cours ne sera ennuyant. Mais si ce dernier n'y arrive pas, alors peu importe la matière, ce cours semblera livide et interminable. Mais je ne mettrai aucunement tous les professeurs dans le même paquet. Par exemple, j'adore l'histoire. Mais ce cours me semble un peu monotone. Et au contraire, il y a d'autres matières que je n'affectionne pas particulièrement, mais qui, grâce à certains professeurs, peuvent devenir enrichissantes et passionnantes.
Je prendrai l'exemple de français. C'est vrai que moi, j'aime pas du tout le français depuis que je suis toute petite. Et depuis cette année, j'ai une prof que j'aime beaucoup et ça m'a fait apprécier la matière. Donc c'est vrai que le professeur est très important.
Il y a aussi le cours, qui fait aussi partie de la cause de cet ennui. Mais chacun, au moins, y trouvera une matière qui le passionnera.
Moi, ça, personnellement, ça fait très longtemps que je vais à l'école, en sachant que je vais être assise à peu près 6 heures ou 8 heures sans rien faire, à écouter les profs parler et à devoir assimiler. C'est presque impossible de ne pas s'ennuyer. Donc, il faudrait changer peut-être le système pour faire participer tous les élèves afin que personne ne s'ennuie et qu'on comprenne et apprenne avec des manières plus intéressantes et pour ne plus s'ennuyer au final.
On essaye d'être moins robotisé et plus dans le lien direct avec le professeur.
Voilà, rendre les cours plus vivants.
Je sais que vous êtes parti en Allemagne plusieurs fois.
Oui, exactement. Par exemple, pour les langues, je trouve que c'est très intéressant parce que être assis à une classe et devoir apprendre des mots pour après faire un contrôle, on ne parle pas vraiment beaucoup la langue. Alors que si on part dans le pays, on parle directement avec les personnes. On apprend indirectement sans même s'en rendre compte. Et on est obligé de parler la langue, parce que c'est pas de la survie, mais c'est presque ça.
Donc vous parlez plus de l'ennui en classe que de l'ennui globalement au lycée, c'est ça? Mais il y a des enfants qui ne s'ennuient pas en classe forcément, mais qui s'ennuient à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas d'amis peut-être.
On peut aussi s'ennuyer chez soi, mais on peut moins s'ennuyer chez soi qu'à l'école, car à l'école on sait pas si on va retrouver nos amis, s'ils sont malades ou pas. Après, chez soi, on a toujours un nouveau truc à faire, et voilà.
Donc, avez-vous des solutions contre l'ennui, à part le fait de révolutionner l'éducation et les professeurs?
Le téléphone.
Le téléphone?
Bien sûr.
Donc, pour vous, rester sans son téléphone pendant qu'on est en cours
Non, pas en cours, mais à l'extérieur, pendant les récréations, les PM et tout, mais après, pendant les cours...
Et vos amis, vous en faites quoi?
Le contact humain, voyons.
Oui, mais quand même.
Non, la meilleure façon de...
de ne plus s'ennuyer, c'est en effet de révolutionner la manière d'apprendre et le cours.
Bon, merci pour à vous. Et je vous souhaite de réussir votre projet de révolutionner l'éducation.
Merci à vous.
L'ennui au lycée peut-il être une barrière à l'orientation? Nous allons tout à l'heure accueillir maintenant Alison, Mathieu et Louane qui vont nous présenter et nous expliquer en quoi cela peut être une barrière. Et on parlait tout simplement de l'orientation.
Alors en effet, par rapport à l'orientation, il y a quelques difficultés, comme par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de choix, donc ça engendre des complications pour choisir. Ensuite, il y a également la peur de se tromper dans son choix d'orientation. Les notes, en effet, jouent un rôle important, et la pression qu'exercent les professeurs et les parents à l'encontre de l'élève peuvent nous décourager parfois.
Mathieu,
On peut néanmoins y remédier. Il y a différentes façons. Après, que ça marche ou non, on sait pas trop. Enfin, ça dépend des gens. Bah, on sait qu'il existe des salons de l'orientation pour trouver sa voie, entre guillemets. Il va exister aussi des portes ouvertes pour trouver son établissement, des mini-stages. On notera aussi des documents, des livres spéciaux pour cela, comme les magazines de l'ONICEP, ou même Internet. On aura bien évidemment la conseillère d'orientation, mais qui... Alison en parlera mieux que moi, mais n'est pas forcément toujours très utile.
Je suis une personne très indécise et je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai donc été voir une conseillère d'orientation. Elle n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Personnellement, cela ne m'a pas vraiment aidée.
Donc vous avez eu recours à ces procédés pour savoir ce que vous vouliez faire plus tard, c'est ça?
Oui.
Et donc savez-vous ce que vous voulez plus tard? Pouvez-vous nous en parler un petit peu s'il vous plaît?
Moi je ne sais pas.
Et vos camarades, Mathieu, par exemple?
Alors moi, ce serait plus pour l'année prochaine une première S, voilà, pour faire plus tard dans le domaine de l'informatique.
Et tu ne sais pas plus ce que tu veux faire?
Pas précisément encore, mais je sais globalement ce que je veux faire plus tard.
Toi, Louane?
Eh bien, j'envisage de faire une S et ensuite partir dans le domaine de l'art. En fait, le choix de partir sur une voie scientifique me permettrait, si jamais l'art ne me plaît pas, de pouvoir revenir faire des études plus scientifiques.
Donc, est-ce que vous recevez des pressions dans la famille pour une filière quelconque ou contraint, non?
Pour ma part, non. Ça, je suis libre. Enfin, je choisis selon ce... Enfin, j'ai la possibilité de choisir ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai pas de pression quelconque pour telle ou telle filière.
Moi, personnellement, je subis un peu de pression, mais bon, c'est... Ce n'est pas non plus l'extrême, ça ne va pas non plus dans l'extrême.
Moi, je suivais une pression, mais pour choisir, pas pour une filière en particulier.
Darren, par exemple, pourrais-tu nous parler de tes idées d'orientation? J'ai cru comprendre que tu voulais faire dans le droit. Peux-tu approfondir tout ça, s'il te plaît?
Oui, je vais faire du droit, en effet. Donc, merci d'avoir abordé le sujet. Donc après, ma seconde, je voudrais faire une filière ES, économie sociale. Puis après lycée, donc bac ES, tout ça. Puis après, oui, j'aimerais faire du droit, en effet. Du droit pour faire avocat, plus précisément.
Eh bien, je trouve que c'est un métier qui tirait merveilleusement bien, Darren.
Merci, Zoé. Et toi, Zoé, tu... Eh oui, arrosé, tout le monde dit.
Eh bien, moi, je ne sais pas. J'ai bien prévu d'aller en S l'année prochaine, parce que c'est vrai que je suis plus sur les matières scientifiques. Après ça, je verrai bien ce que je ferai. Pourquoi pas partir à l'étranger pour faire mes études, je ne sais pas. Ça peut être sympa pour devenir bilingue, apprendre différentes langues.
Oui.
Ça pourrait être très intéressant. Et puis, il y a de bonnes écoles à l'étranger aussi, donc pourquoi pas tenter le coup?
Merci à vous trois. Donc, je répète, Mathieu, Louane et Alison. En parlant d'école, ce qu'attendent le plus les élèves sont les vacances scolaires qui leur permettent de se reposer, de sortir avec des amis. Ils utilisent le plus souvent pour se déplacer les transports, ce qui peut nous questionner sur l'utilité de la carte Navigo.
Pour nous éclairer sur cette question, accueillons Manon, Mathilde et Océane qui vont nous parler de la carte Navigo et de ses différents avantages.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors c'est vrai que de nos jours, les transports en commun sont devenus indispensables pour les jeunes. Ça permet de pouvoir sortir et avoir accès à des zones commerciales comme Paris ou La Défense sans pour autant dépendre des parents. Donc c'est donc plus facile d'avoir accès à ces différents transports quand on habite dans des zones urbaines.
C'est sûr, mais en revanche, pour les jeunes adolescents isolés et habitant en zone rurale, il est beaucoup plus compliqué pour eux de se déplacer. car les bus ne passent qu'en période scolaire et pendant les vacances, ils se retrouvent dépendants de leur famille. Ils doivent trouver un autre moyen pour se rendre le plus près des transports.
D'ailleurs, la carte Navigo, elle permet d'avoir des réductions dans plusieurs enseignes, comme Citadium, McDo ou Deezer. Et elle est devenue indispensable pour les jeunes pour qu'ils puissent se déplacer facilement.
Quand vous parlez de carte Navigo, vous parlez surtout de pour faire du shopping, etc. D'après ce que j'ai compris, vous ne parlez pas plutôt pour aller sortir avec vos amis, aller dans un parc ou autre sujet, non ?
C'est vrai qu'en général, pendant les vacances, on préfère se retrouver avec les amis dans des zones où il y a de l'activité, où il y a du mouvement, et c'est plutôt des zones commerciales.
Donc, certaines d'entre vous trois, vous vivez dans des zones rurales ?
Manon et Océane, on habite en zone rurale, et Mathilde, elle habite en ville.
Pour vous, il est indispensable d'avoir une carte Navigo ?
On en a tous une, mais pour venir au lycée et tout, pendant les vacances, c'est plus pratique.
Et ça vous procure un sentiment d'indépendance vis-à-vis de vos parents ou autre ?
C'est sûr qu'on n'est pas obligé de leur demander de nous déposer quelque part.
Donc, j'ai cru comprendre aussi que quand vous faisiez ces voyages avec la carte Navigo, vous en particulier, vous alliez souvent à Paris ?
À Paris ou La Défense, ou Mantes.
Dans le centre-ville de Mantes.
Mais est-ce que parfois il vous arrive de sortir comme ça, marcher avec des amis ? Oui, vous balader avec des amis, non pas dans des zones attractives, pas forcément dans des zones commerciales.
Oui, ça arrive souvent. Mm-hmm. C'est pas obligé qu'il y ait des magasins.
Par exemple, à des moments, si vous voulez vous retrouver dans un parc avec vos amis en écoutant de la musique, tout simplement, vous n'avez pas forcément besoin de carte Navigo ni d'aller très loin de chez vous, donc ce n'est pas toujours indispensable pour être indépendant, entre guillemets, de vos parents.
Mais ça dépend où ils habitent, surtout parce on n'habite pas tous à côté, donc c'est plus facile pour qu'on se rejoigne quelque part.
Plus tard, aimeriez-vous vivre à la campagne ou en ville ?
C'est mieux, pour ma part, c'est mieux d'habiter dans des zones urbaines, puisque forcément on a plus facilement accès à tout, en fait, on est proche de tout, alors que quand on habite en campagne, faut toujours prendre soit les transports en commun ou soit la voiture, donc c'est mieux pour moi d'habiter en ville.
Mais moi je trouve que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients par rapport si on veut un jardin pour nos enfants, ou c'est peut-être mieux la campagne, mais après pour tout ce qui est... les magasins et tout, c'est peut-être mieux la ville aussi, je trouve.
La ville, ça permet aussi d'être plus proche de son travail et des magasins aussi. Mais la campagne, on peut être plus tranquille, tout ça. Donc,
Merci à vous, Mathilde, San et Manon, d'être venus.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
En parlant des zones urbaines, dont Paris, voici les prochains chroniqueurs qui vont nous parler d'un clip vidéo qui s'est déroulé à Paris.
Dimitri, Raphaël et Florent.
Bonjour, donc nous allons vous parler d'un projet musical donc, qui a été créé au sein du lycée Léopold Sédar Senghor. Nous avons avec nous donc, quelqu'un qui a fait partie de ce projet. Donc il va nous expliquer un peu plus en détail donc, quel est ce projet, en quoi il consiste.
Alors, ce projet, c'est de créer une chanson sur le thème de Paris avec des lycéens de première aile qui écrivent les paroles et des musiciens lycéens qui créent et qui jouent la musique.
D'accord, et quel est le style de cette musique ?
Alors, il s'agit de jazz manouche.
Quels sont les instruments utilisés ?
Il y a la basse, la guitare, le saxophone, le piano et la batterie. Pour ma part, je joue du saxophone alto.
Donc, nous aimerions savoir maintenant donc, quel est le titre de ce projet, de cette musique ?
Alors cette musique s'appelle « Paris est une fête ».
Et combien de personnes participent à ce projet ?
Il y a des professeurs de musique et de classe, des élèves de première aile, des premières esthétiques pour les maquillages, un ingénieur du son et une caméraman.
Donc avez-vous tourné un clip ?
Oui, nous l'avons tourné mercredi dernier au parc de Belleville à Paris.
Et que comptez-vous faire avec ce projet ?
Ce que nous comptons faire, c'est de le diffuser sur internet, notamment sur YouTube et sûrement Facebook, en espérant par la suite continuer et sortir d'autres musiques.
Il y a un album qui est en vue, qui va bientôt sortir, qui va se dérouler, quoi.
Du moins un clip, pas l'album pour l'instant.
Et quel message vous voulez faire passer par cette musique ?
De pouvoir montrer que le terrorisme ne peut pas détruire la capitale qui restera en fait, quoi qu'il arrive.
La lune prend place dans le ciel, les habitants sont trop éclairés par ces lumières artificielles, vivent leur vie superficielle, c'est avec un sacré cœur.
Donc c'est un projet qui vous tient énormément à cœur pour défendre des valeurs et un engagement de
c'est ça, tout à fait.
Et pourquoi ce sujet vous tient tellement à cœur?
Bah, je trouve que c'est important de passer un message comme ça, parce qu'en ce moment, voilà, c'est pas top.
Et donc c'est pas en but de démoraliser les auditeurs, mais plutôt de les rendre heureux ou c'est de les aider à supporter ce qui se passe en ce moment et de les appeler à continuer à vivre.
À continuer, à faire ce qu'il y avait à faire avant. Mais...
Quelles sont vos influences musicales du moment?
Nous n'avons pas d'influence musicale en particulier.
Donc vous vous inspirez un peu de tout?
Voilà, un peu de tous les styles de musique, mais surtout du jazz manouche.
Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples de styles que vous écoutez?
Des musiques, par exemple, de l'électro ou du rap, par exemple, par des auteurs comme Sofiane ou d'autres rappeurs.
Pour ma part, c'est plus du rap américain, comme par exemple Hiless. Et...
Je connais pas trop. Mais...
Can, c'est des rappeurs...
Oui. Et toi, après?
Comment ça?
Pour ma part, j'écoute aussi beaucoup Hiless, mais j'écoute aussi beaucoup de pop et de trap.
Pop américaine, hein?
Oui.
Hiless, c'était pas un nouveau, un artiste très jeune qui vient de commencer?
Là, il vient de commencer et son but, en fait, c'est de faire un son tous les dimanches.
Oui, j'ai cru voir ça, oui.
Voilà, il commence en un an, il doit faire un son tous les dimanches.
Il parle des problèmes de la vie de tous les jours, il parle de sa famille... De base, il faut savoir qu'il est surveillant dans un collège et qu'il fait tous ses clips tout seul de A à Z.
Et il est français, j'ai cru comprendre.
Il est français, voilà.
Il a appris à parler anglais.
Il est français, mais il fait toutes ses musiques en anglais.
Toutes ses musiques sont en anglais.
Et il a un accent super, il a pris des cours, je crois, juste pour pouvoir faire ses...
Tout à fait, oui.
Tu connaissais, José?
Oui, je connais ce rappeur.
D'accord. Et donc, Florent, tu connais un rappeur qui est un peu...
Il y en a plusieurs dans le monde du rap. Il y a beaucoup de rappeurs qui maintenant se
distinguent.
On l'a dit juste avant, Fianso, ou beaucoup d'autres rappeurs qui sont montés très vite dans le haut, dans le top classement du rap, comme on a beaucoup vu Jul, Caris, des rappeurs comme ça.
Je pense qu'il n'y a pas de comparaison entre Hiless par exemple ou le type de rap français que pourrait écouter.
Non, bien sûr, tous ont des messages différents à faire passer. Ils ont pas...
Et une manière d'aborder la musique complètement différente.
Oui, voilà, c'est ça aussi.
Oui, c'est sûr.
Nous allons rester sur les rappeurs français en faisant une interview de musicale avec Marine et Cyrine qui vont nous parler de Kenny James.
Lève-toi et marche. Banlieusard et fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ou combien j'admire nos pères.
Kenny James, c'est un rappeur engagé. Il mélange rap et poésie dans ses musiques. Donc on sait que les adolescents sont beaucoup influencés par le rap dans notre génération. Et lui, il mélange rap, politique. Donc il dénonce la politique dans ses textes.
C'est pas pour tes rêves en fumée. Dans un on en fumée. Fumer des substances qui brisent ta volonté, anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un peu.
Et donc, à côté donc de Kerry James et de son rap conscient, qu'est-ce que vous écoutez d'autre à côté?
On écoute un peu tout, on écoute d'autres styles de rap aussi.
Français,
américain.
Si, d'autres styles de rap.
Donc vous n'écoutez écoutez vraiment que du rap, quoi. Il n'y a pas d'autres place pour d'autres styles.
Si.
Chansons beaucoup
française.
Plus douces.
Non, il n'y a pas. Quel genre de variété?
De chansons de variété française?
Charles Aznavour. Il faut savoir qu'aussi Charles Aznavour s'intéresse aux chansons de Kerry James.
Ah, c'est très, très grand homme, hein, ce Charles Aznavour. Donc merci à vous d'être venus et merci à tous. Et à toutes. Donc nous remercions nos chroniqueurs qui se sont succédés tout le long pour nous parler donc
de leurs sujets divers,
des insectes, de l'orientation, de l'ennui au lycée.
Sujets tous aussi intéressants les uns que les autres.
En effet.
D'ailleurs, vous pourrez retrouver tous ces articles dans le journal qui sortira très prochainement. J'espère que vous serez nombreux à le lire.
Merci à vous, chers auditeurs. C'était Horte d'Arène et Zoeiner sur Radio Sangor.
Merci.